France Culture.
Talmudique. Dans un entretien, Philippe Roth constatait avec netteté que la littérature avait cessé d'occuper le centre de la cité. Non pas que les écrivains manquent, au contraire, mais parce que la lecture, disait-il, s'est rétractée, devenue affaire de quelques-uns, minorité clandestine, lecteurs et auteurs réduits à une poignée de guérilleros. Comme si le roman, autrefois instrument de compréhension collective, n'était plus convoqué pour éclairer nos crises, nos violences, nos aveuglements, alors même que le monde, lui, n'a pas cessé de produire du tragique. C'est précisément contre cette relégation de la littérature que s'élève notre invité d'aujourd'hui, qui fait du récit, par l'intermédiaire des personnages de ses romans, et particulièrement de son dernier roman, une sociographie à hauteur d'homme, une enquête sensible sur les forces d'une époque. Toby Nathan, bonjour.
Bonjour Marc-Alain Wakenin.
Toby Nathan, c'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans Talmudique. Vous êtes professeur émérite de psychologie à l'Université Paris 8 et l'un des représentants de l'ethnopsychiatrie française. Vous êtes aussi diplomate et écrivain, essayiste et romancier, avec votre dernier roman intitulé « L'assassin du genre humain » qui vient de paraître chez Stock, vous nous offrez une belle démonstration que la littérature n'est pas une échappée hors du réel, mais une manière d'y entrer plus profondément et d'y lire à nu ce qui nous travaille. Et vous abordez plus précisément la question du mal et celle de la méchanceté humaine, Toby Nathan.
C'est vrai que la question du mal est une question fondamentale. Je l'aborde dans mon travail de clinicien, beaucoup, surtout que je travaille avec des gens qui viennent de mondes éloignés, c'est-à-dire des gens qui viennent d'Afrique, du Maghreb, du Vietnam, d'Afghanistan. Et là, partout, lorsqu'on a un désordre que nous, on appelle psychologique, on dit « on m'a fait du mal, on m'a jeté un sort, un tel m'a fait du mal ». Et cette question du mal est au cœur même du dispositif clinique dans les mondes éloignés. Nous, on a oublié ça. Et moi, j'ai pas oublié.
Et l'ethnopsychiatrie, c'est particulièrement le fait justement de s'intéresser aux traditions lointaines pour comprendre la psyché humaine.
Oui, les traditions lointaines, ça veut pas dire oublier, hein, parce que en fait, ces traditions, elles sont très présentes dans les mondes éloignés, mais elles sont aussi très présentes dans ici en France. C'est-à-dire que si on va sur Internet, par exemple, on trouve plein de réponses aux questions telles que les gens se les posent et pas telles que les professionnels se les posent. Et moi, je vais les chercher là.
Par exemple, quand vous dites telles que les gens se les posent.
C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a une souffrance, il ira chercher une amulette, par exemple, sur Internet. On lui enverra par Internet son amulette. Et parfois, ça lui suffira. Et s'il s'était adressé à un psychologue, à un psychiatre, aucun psychologue ne lui fera une amulette. Mais ça, c'est un exemple très banal, hein.
Alors, votre œuvre se partage entre, d'une part, un ensemble de travaux d'ethnopsychiatrie, et d'autre part, vous avez publié plus d'une douzaine de romans, 13 romans, précisément, entreprise littéraire que résume le titre d'un de vos ouvrages, intitulé justement « Ethnoroman », qui a reçu le prix Fémina de l'essai en 2012. Tout se passe comme si cette question, si essentielle, la question du mal et de la méchanceté humaine, ne pouvait se dire, s'approfondir, que par le jeu de la littérature romanesque, Toby Nathan.
Je vais vous dire, quand j'écris des travaux, des essais de psychologie, par exemple, et en particulier des cas cliniques, parce que j'ai décrit des cas cliniques dans mes travaux, je suis arrêté. Je peux pas aller jusqu'au bout. Parce que on peut pas révéler les choses cachées des gens comme ça. Je me sens pas de le faire. Pourtant, Freud a essayé de le faire. Je trouve que ces cas cliniques sont pas bons, moi, je trouve. Parce que il peut pas aller assez loin. À ce moment-là, je pense qu'il faut switcher. Et hop, à ce moment-là, on passe au roman. Et là, on invente quelque chose. Et là, on peut approfondir le concept qu'on avait ébauché dans le travail, dans l'essai.
Une des plus grandes affaires criminelles de tous les temps, l'affaire Petiot, passionne actuellement l'opinion. Le commissaire Massu, le juge Berry et les experts, puis le docteur Paul arrive rue Le Sueur. Les explications des enquêteurs. Le trou par lequel Petiot regardait agoniser ses victimes. La fosse qui était remplie de chaux vives et où se décomposaient lentement les cadavres. La chaudière enfin où il brûla 20, 30 corps et peut-être même davantage. Il faut croire que le crime garde une fascination. Aux assises, devant le décor des 72 valises volées aux morts, l'avocat général, M. Dupin, l'accusé et son défenseur, Maître Floriot, se disputent la tête de celui qui, tour à tour, violent, ironique, amer, plaisant ou méprisant, joue avec fureur son rôle de vedette du crime. Pour donner à l'affaire son vrai jour, la cour s'est déplacée rue Le Sueur jusqu'à la maison du crime qui, pour la première fois depuis 2 ans, a ouvert ses portes. Petiot, menottes aux mains, y refait le chemin que firent naguère ses victimes lorsque, cherchant une sortie hors de France, elles ne trouvèrent que l'entrée d'une tombe.
Une archive de l'INA de 1944 qui plante le décor de votre roman, qui justement est l'histoire de ce docteur Marcel Petiot. Pourquoi le choix de cet épisode pour toile de fond? Est-ce la psychologie du serial killer qui a d'abord intéressé le psychologue que vous êtes? Ou comme vous le suggérez par la bouche d'un des personnages principaux du roman, comprendre un meurtre, c'est aussi comprendre le contexte politique et social dans lequel se sont déroulés les faits. C'est ce que dit votre personnage. Et un meurtrier, dites-vous, est le sociographe d'une époque. Un meurtrier est une image condensée de son temps. C'est une phrase qui revient avec différentes variantes tout au long du roman, Toby Nathan.
Bon, alors, d'abord, je reviens un peu sur ce que vous avez dit au départ. Est-ce que c'est Petiot qui m'intéressait ou l'époque ? Les deux, mon général, évidemment. C'est-à-dire que Petiot est un personnage totalement spécial, vraiment spécial. De comprendre la psychologie de Petiot, ça m'a fasciné. Il y a des dizaines de livres sur Petiot. Hein. Je crois que j'ai tout lu, en français en tout cas. Parce qu'il y en a en anglais aussi. C'est quelqu'un qui a intrigué beaucoup de gens. Je pense que j'ai apporté des réponses que personne n'avait apportées avant. Bon, donc ça, la psychologie de Petiot, ça m'intéressait beaucoup. Mais l'époque, évidemment, et ses retentissements actuels. C'est-à-dire l'époque, la période où l'antisémitisme était l'ambiance, le pain quotidien de tout le monde, et ses retentissements actuels, où il y a quelque chose de ça qui plane aujourd'hui. Et la relation entre les deux m'a beaucoup intrigué, et c'est pour ça que je me suis attaché à ce personnage. Maintenant, un sociographe, c'est que je pense que dans une époque très tourmentée, où un peuple perd son identité, son âme en quelque sorte, le peuple entier perd son âme, où quelqu'un d'extérieur pense à sa place, à ce moment-là, il y a un personnage qui incarne la déréliction de l'époque, et ce personnage, c'est souvent un meurtrier. Et c'est pour ça que je dis, ce personnage est le sociographe, c'est-à-dire, comme on dit, d'un sismographe qui enregistre les vibrations de la Terre. Eh bien, un sociographe, c'est un personnage qui enregistre les vibrations d'une société en déréliction.
Et quelles vibrations Petiot a enregistrées ?
Alors, il a enregistré la perte d'identité de la France qui était occupée. On pensait à sa place, on agissait à sa place, et puis il y avait des pantins qui étaient au service des Allemands. On le sait mal, mais par exemple la Gestapo avait pas les moyens en France, ils étaient trop peu nombreux, de contrôler la France. Il a fallu des supplétifs, et par dizaines de milliers de supplétifs qui en fait faisaient le travail pour eux, c'est-à-dire des Français qui avaient abandonné leur âme pour la donner à la Gestapo. Et ça, c'est la perte d'âme. Et là, dans ce contexte, un personnage est en révolte, en quelque sorte, intérieure contre ça, et en même temps s'identifie à ce qui est en train de se passer. C'est un personnage très complexe, et c'est Petiot. Mais il y a des raisons à ça. Et je crois que je suis rentré suffisamment dans la psychologie du personnage pour expliquer pourquoi ça lui est arrivé.
Alors on va y revenir. Les chapitres de votre roman alterne entre le temps du passé, des années de l'occupation à Paris, oui. Vous venez d'en parler. Vous parlez aussi de la reconstitution des faits et des gestes de Petiot pendant l'occupation. Et puis, il y a le temps présent, l'histoire d'une étudiante en criminologie qui fait sa thèse sur Petiot, intitulée « Personnalité et meurtre du docteur Marcel Petiot, 1897-1946, description de l'époque, analyse des faits, essai d'interprétation ». On a l'impression que c'est une thèse que vous auriez aimé écrire. Oui. Et en fait, c'est la thèse que vous écrivez par l'intermédiaire de ce personnage. Qui est Jade, cette étudiante, fascinée par son directeur de thèse qui s'appelle Augustin Nagral? Elle aussi semble, par ses recherches, ses rencontres et son lien à son directeur de thèse, révéler quelque chose, non pas de l'époque de 40-44, mais de notre époque. En quoi, Toby Nathan?
Alors, justement, Jade, c'est elle qui développe ce concept de sociographe. Donc, Jade est, je vous en dis un mot comme ça rapidement, c'est quelqu'un de très brillant, d'un peu spécial aussi, c'est-à-dire une révoltée constitutionnelle, en fait. Elle a grandi comme ça. Elle a une force de révolte. Elle est révoltée contre le monde tel qu'il est, quoi, tel qu'il va. Et cette jeune femme a une autre caractéristique, c'est qu'elle est vierge. Et que la sexualité l'intéresse pas. Et ça, c'est très bizarre, parce que c'est une jolie femme, et que les hommes s'intéressent à elle, mais elle y pense même pas. Elle est totalement dans la pensée. Elle se concentre tellement sur son travail de recherche qu'elle commence à avoir des visions. Elle voit des choses qui se sont passées à l'époque de Petiot. Et plus elle voit, plus elle entre dans sa thèse. Elle croit donc qu'elle est en train de rétablir une vérité historique. Et chemin faisant, il lui arrive des tas de choses dans la vie actuelle. Et en fait, elle se rend pas compte qu'en parlant de Petiot, elle parle du monde dans lequel elle est. C'est-à-dire notre monde d'aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'elle trouve dans le monde d'aujourd'hui?
Elle est à Sciences Po, elle se fait arrêter à Sciences Po, on lui dit « t'es une sale juive, ici c'est une fac de gauche, c'est interdit aux juifs ». Elle est complètement étonnée de ça, d'autant qu'elle est dans la période 42-44, dans ses recherches, où on disait la même chose, c'est interdit aux juifs. Et elle dit « mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle est demi-juive, hein, c'est juste son père qui est juif. Donc elle a un nom juif. Mais en fait, elle n'a jamais grandi là-dedans. Elle ne pense pas qu'elle est juive. Et tout d'un coup, ça lui est révélé par l'antisémitisme. Elle est un peu sartrienne, on va dire.
Hein. Oui. Dès les premières pages de L'assassin du genre humain, c'est le titre de votre roman, on retrouve votre passion de l'ethnopsychiatrie alliée à votre passion de la transmission, de faire comprendre comment fonctionne la psyché en général, ou meurtrière, comme dans le roman, fonctionnement qui est toujours en fonction du milieu culturel. Je vous cite, et vous faites parler le professeur Nagral qui donne un cours. Dès son premier cours, Nagral avait cité les techniques du corps de Marcel Mauss. On reconnaît un Anglais à sa façon de tenir sa fourchette. On reconnaît de prime abord un pieux musulman, même lorsqu'il a une fourchette et un couteau. Il fera tout pour ne se servir que de sa main droite. Pour savoir pourquoi il ne fait pas tel geste et fait tel autre, il ne suffit ni de physiologie, ni de psychologie, de la dissymétrie motrice chez l'homme, il faut connaître les traditions qu'il impose. Et votre personnage ajoute, pour le crime, c'est la même chose, il faut connaître les traditions qui imposent sa forme. C'est un passage important, Toby Nathan.
Oui, mais je pense que c'est vrai. Vous savez, j'ai été un certain nombre de fois expert auprès des tribunaux, et on m'a souvent demandé des expertises sur des délinquants qui venaient d'ailleurs, en me demandant, est-ce que c'est juste un délinquant ou est-ce que ça a rapport avec une tradition culturelle? Cette question-là, elle traverse ma discipline depuis le début. Devreux, qui était mon maître, la question qu'on lui a posée, c'était au sujet d'un meurtrier, un indien meurtrier. On lui a demandé, est-ce qu'il est fou ou est-ce que c'est plutôt ces traditions culturelles qui l'ont poussé à commettre ce meurtre? Et Devreux a fait l'expertise de la personne et a dit « Non, non, ça n'a rien à voir avec ces traditions, c'est vraiment un fou. » Et donc, ça c'était de vœux. Hein. En tout cas, c'est ce genre de question et qui est fondamentale. Et alors évidemment, ça ressort plus avec des gens qui viennent d'ailleurs, mais chez des délinquants locaux, en fait, si ça existe. Mais bon, on est toujours de quelque part. Là aussi, la tradition, la façon dont on a grandi, imprègne les actes, et surtout les passages à l'acte. Les passages à l'acte sont complètement imprégnés de la tradition culturelle de l'endroit.
Alors qu'est-ce qui s'est passé justement pour Petiot ? Il y a, sans dévoiler le roman, on découvre à un certain moment que il vit dans une certaine campagne de France où la sorcellerie était pratiquée à l'ancienne, si on peut dire, et cela a eu une influence considérable sur son comportement.
Ça, c'est mon hypothèse. Hein.
Ah, c'est peut-être ça que vous vouliez révéler, et c'est ça que révèle Jade tout à l'heure.
Ça, c'est mon hypothèse.
Oui.
Vous ne trouverez jamais ça dans aucun texte sur Petiot. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur Petiot, on ne s'est pas soucié de ses origines, en fait. Petiot, il est de Lyon, mais le plus profondément de Lyon, et d'une certaine région, c'est la Bourgogne du Nord. C'est une région très particulière, et dans cette région, il y avait des endroits qui étaient restés très très longtemps intouchés par l'Église. C'est étonnant, hein. Et j'ai retrouvé un petit village qui s'appelle Chéhu. Ce village a une histoire étonnante. Jusqu'au 19e siècle, on disait de ce village que tout le monde était sorcier dans ce village. De nombreuses reprises, l'archevêque de Sens, qui, comme vous le savez, était plus important que l'archevêque de Paris, hein, puisque Paris dépendait de l'archevêché de Sens. Et l'archevêque de Sens est venu à Chéhu pour faire l'Inquisition, pour brûler des gens, les jeter dans la rivière, etc. Et malgré tout, la sorcellerie persistait et les gens continuaient à faire leur culte aux fontaines, leur culte à Diane, etc., qui sont les traditions profondes de la France. Et puis, un jour, le village entier a pris feu et tout le village a été détruit par les flammes. Et là, l'archevêque a dit « Bon, c'est Dieu qui a nettoyé le village ». Maintenant, on peut l'habiter. Et c'est au 19e siècle,
oui,
quand même.
Et c'est dans ce village que, dans votre roman,
oui,
Petiot a une maison dans laquelle il pratique des sorcelleries, si on peut dire.
C'est ça. C'est
des rituels sorciers.
C'est mon invention romanesque,
oui,
si vous voulez.
C'est-à-dire que dans la vérité, vous ne savez pas s'il a eu une maison à Chéhu ou pas.
Il avait des maisons partout dans Lyon, parce qu'il plaçait son argent, parce qu'il gagnait beaucoup d'argent, beaucoup. Parce que c'était un truand, hein, Petiot. C'était un médecin, et c'était un truand aussi. Et donc, il gagnait beaucoup d'argent.
Un trafiquant de drogue, on peut dire.
Oui, c'est un dealer. C'est un dealer. C'est-à-dire, pendant l'occupation, le seul moyen d'avoir de la drogue, c'était de se la faire prescrire par un médecin véreux. Et c'en était un, lui.
Mais est-ce que le fait de pratiquer ces rituels de sorcellerie, ce que vous imaginez, a eu une influence sur sa personnalité de meurtrier ?
C'est certain. Mais je me suis basé sur une chose. C'est-à-dire que dans le cabinet de Petiot, les gens ont remarqué ça. Il y avait un objet. Et cet objet, c'est vrai, hein, cette histoire. Cet objet, c'était une sorte de priape, si vous voulez. Un nain avec un sexe gigantesque, comme on représentait Priape dans l'Antiquité, qu'il avait lui-même sculpté dans du bois. Et cette chose-là, il l'avait posée à l'entrée de son cabinet, et il l'avait même entourée de la photographie de cette chose-là, comme pour augmenter sa puissance. Et donc, cette chose, elle est attestée. Pourquoi il faisait ça ? Donc moi, j'ai expliqué la suite.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname.
Yves Montand, dans une célèbre chanson intitulée « Sous le ciel de Paris », une chanson qui vient à l'esprit de Jade quand son directeur de thèse, Augustin Nagral, lui donne rendez-vous au café Marly, au pied de la pyramide du Louvre. Les cafés sont presque des personnages de votre roman. Le café Marly, le café Georgette, le café Marius, le café de Flore, un café place du Palais Royal, le Tronchet, il y a le bar du Bristol. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de cafés. Ce sont des lieux de rencontre et d'intégration. On a oublié, dit le narrateur, qu'à l'époque, l'intégration des immigrés se faisait avant tout dans les cafés. Et c'est dans ce boui-boui du père Rispal, un bougnat, dites-vous, que le docteur Petiot entre en scène au cours d'une confidence de Fourier, l'une de ses connaissances, une sorte de rabatteur, il y en a plusieurs dans cette histoire. Le café est un centre névralgique de cette affaire Petiot, un lieu où la parole circule et on a l'impression, Toby Nathan, qu'il est un centre névralgique tout court de votre monde romanesque en général.
Mon monde romanesque en général, je ne sais pas,
oui.
Mais en tout cas dans ce roman, oui, absolument. Tout se passe dans les cafés, hein. C'est-à-dire, c'est là que la rabatteuse Ariane prend connaissance des événements du monde. C'est là qu'elle lit le journal, par exemple, hein. Parce que je suis allé chercher aussi les journaux de l'époque et ce qu'ils racontaient tous les jours. C'était véritablement la propagande quotidienne. Et il y avait que le journal et une radio qui était pas notre radio, hein, qui était une radio d'État. Et c'était de la propagande perpétuelle. Et donc, Ariane, ou Fourier, ou tous ces gens qui se rencontrent dans ces bistrots, ils écoutent la propagande officielle, et puis ils échangent d'autres paroles. Et c'est des paroles souterraines, et c'est ce qui se passe en vérité. Comme dans des mondes qui sont complètement étouffés, et il y a un souffle qui sort malgré tout, et c'est dans les cafés que sort ce souffle. Moi, j'ai connu ces cafés dans ma jeunesse, et je me souviens très bien que c'était dans ces cafés qu'on se mélangeait. On se mélangeait tous. Et il y avait un truc, c'était le vin rouge, parce que quand on a picolé 2-3 ballons ensemble, on sent tous la même odeur, d'où qu'on vienne, on est mélangés. Et c'est vrai que c'est là que se passait la véritable assimilation.
Les cafés de votre roman, c'est aussi l'occasion d'entendre le titi parisien et l'argot très fleuri, souvent vulgaire des années 40, et peut-être après d'ailleurs, une façon de rappeler que la littérature, c'est aussi une langue, des langues, et l'on pense à cette langue parlée vulgaire de Louis-Ferdinand Céline, qui a un rôle important dans le roman. Et je me suis demandé lequel, et il y a le fait que Petiot et Céline croyaient tous deux à la puissance du verbe, mais du côté du mal. Idéologie pour l'un et violence jusqu'au meurtre pour le second, Toby Nathan.
Là aussi, j'ai relevé quelque chose qui n'est relevé nulle part. C'est la ressemblance des parcours de Petiot et de Céline. C'est-à-dire que l'un et l'autre font la guerre. L'un et l'autre, la guerre de 14. Hein. L'un et l'autre sont blessés au combat. L'un et l'autre se font réformer à l'issue de leurs blessures, mais ils ont fait la guerre, hein. Ils ont souffert au combat, tous les deux. Et Petiot réussit à se faire réformer pour raisons psychiatriques, c'est là que ça commence, et Céline pour des raisons médicales. Et quand ils sortent de ça, ils obtiennent une faveur, c'est la possibilité de faire leurs études de médecine en 3 ans, ce qu'on permettait aux anciens combattants. Et donc, ils ont fait tous les deux leurs études de médecine en 3 ans. Et à peu près à la même époque, à quelques années d'intervalle, à 2 ou 3 ans d'intervalle. Donc, j'ai pensé qu'ils se sont même peut-être croisés sur les bancs de la fac, puisqu'ils étaient dans la même fac à Paris. Donc, Céline et Petiot, ils ont un parcours semblable, et ils ont une façon de parler qui est identique. Sauf que Céline en a fait des romans, et Petiot en a fait...
Des meurtres.
Des meurtres.
Et qu'est-ce qui justifie la différence de parcours ?
C'est-à-dire que Céline a fait aussi des meurtres. Hein. Mmh. Des meurtres par procuration. Mais il a dénoncé beaucoup de juifs. Hein. On le sait aujourd'hui. Autrefois, on pensait qu'il ne faisait que des textes. Mais il faisait pas que ça. Il était très très actif dans la période de l'occupation. Bon, il a pas tué lui-même. Mais c'était des meurtres par procuration. Parce que dénoncer une famille juive, au moment de l'occupation, c'était la condamner à mort. Hein. Et il le savait. Donc, il était très mouillé dans cette affaire. Petiot, lui, il voit moins grand, mais il est plus près. C'est-à-dire, il veut pas nettoyer la France.
Plus pragmatique.
Il est plus pragmatique, oui.
Alors, je me suis...
Il se ressemble. Hein.
Oui, on le comprend bien dans votre propos. Et je me suis demandé si la littérature révèle une époque, peut-elle aussi nous sauver d'une époque? Les mots, la poésie, la littérature, peuvent-ils réparer le monde, surtout quand les mots du quotidien échouent? La littérature peut-elle être un tikkun, une réparation et une prévention contre le mal et la méchanceté humaine? Peut-elle, la littérature, nous aider à en terminer avec l'horreur, à faire en sorte que le passé ne puisse ressurgir et les démons ne pas revenir hanter nos nuits? Toby Nathan, comment la littérature nous permet-elle de nous confronter au mal?
C'est une question grave hein, et importante que vous posez là. Je pense que le fait de faire savoir le mal, ça ne le combat pas. C'est-à-dire de le dénoncer, de militer, toutes ces choses-là ne font que faire de la publicité au mal. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait. La littérature est différente parce qu'elle est ambiguë, ambivalente. Moi, je suis rentré dans les méandres les plus profondes de l'esprit de Petiot, en tout cas à mon sens. Et on pourrait croire que j'ai de la sympathie pour lui, mais c'est pas vrai du tout. Mais ça m'intéresse de démonter les choses. Mais en faisant ça, je suis dans l'ambiguïté. Cette ambiguïté-là, il n'y a que la littérature qui peut la maintenir. Et c'est par là qu'on peut dire qu'on peut être intelligent face au mal. Parce que face au mal, il n'y a qu'une seule arme, c'est l'intelligence. C'est la compréhension. C'est le fait de dépasser les choses, d'aller plus loin. Mais il faut le reconnaître. Il faut reconnaître son existence. Vous savez, il y a eu une période, hein, au Moyen-Âge par exemple, et surtout après, à la Renaissance, XVIIe, XVIIIe siècle, on était passionné par le diable. On était passionné par ce personnage du diable. Et on faisait, mais qu'est-ce que veut le diable? Qu'est-ce qu'il est en train de faire en France, ici, aujourd'hui? Et donc, on s'intéressait au mal et à sa complexité. Et pourquoi il est attirant? Et pourquoi on finit par se donner à lui? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui nous pousse à ça? Tout ça s'est évanoui à un moment donné, et le diable a disparu de nos préoccupations conscientes, et j'ai bien peur qu'il soit rentré à l'intérieur des gens. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile de le décrire. C'est là que la littérature vient, et elle a fait son office.
Et pourquoi l'ambiguïté permet cette lutte contre le mal?
Parce qu'elle va dans la complexité des choses. Le mal va vers la dualité. Il dit, ça c'est bien, ça c'est mal, ça tu fais pas, etc. L'ambiguïté dit, je sais pas, il faut comprendre encore. Et quand t'as compris, il faut encore comprendre plus loin. Et cette chose-là n'est permise que par l'ambiguïté. Et cette ambiguïté ne peut être portée que par une parole complexe, une parole littéraire.
Et c'est pour cela, j'ai l'impression, en vous écoutant maintenant, que vous avez créé ce roman avec un personnage qui fait de la recherche, c'est-à-dire le personnage de Jade,
oui,
est une étudiante qui fait la recherche pour nous expliquer que c'est que par la recherche
exactement.
Que l'on peut combattre le mal, c'est-à-dire que on n'en a jamais fini. Si c'était une dissertation sur le mal, on serait passé à côté du sujet.
Exactement, c'est une recherche permanente. On disait, c'est dans Goethe d'ailleurs, dans son Faust, sa fameuse pièce sur le mal, au fond, où il dit les gens qui sont déprimés, en fait. Il dit pas déprimés, c'est pas un mot à lui, mais les gens qui ont perdu quelqu'un de cher, quelqu'un qui est... des gens qui sont tristes. À ce moment-là, le diable s'approche. Et c'est dans ces moments-là qu'il arrive à rentrer à l'intérieur de vous. Quand quelqu'un est triste, c'est quelqu'un qui est retourné sur lui-même et qui est en train de perdre sa pensée. Donc, pour combattre le mal, il faut jamais abandonner sa pensée. Et donc, c'est la complexité de la pensée qui permet de combattre le mal. C'est ce que je pense.
C'est pour cela que, dans le roman, à plusieurs reprises, il y a une critique de l'idéologie, que ce soit l'idéologie des personnages. Et le mot revient souvent, parce que peut-être que l'idéologie, c'est justement ce que l'on peut définir comme une pensée absolument non complexe.
C'est une pensée automatique. L'idéologie, c'est une pensée automatique. Je la connais bien. J'ai commencé comme ça, comme beaucoup de jeunes à mon époque. On a foncé dedans. On pensait que ça y est, on allait comprendre. J'ai été maoïste. Quand je relis le petit livre rouge, parce que je l'ai gardé, c'est quand même hallucinant, quoi. Même quelqu'un de très simple écrit mieux que ça. Et pourtant, c'était devenu presque un catéchisme. Et donc, après, j'ai réfléchi beaucoup, Donc, l'idéologie, c'est exactement le contraire de la pensée. C'est-à-dire, ça fait semblant d'être une pensée. Et ça s'évapore, ça disparaît. La pensée complexe la plus attractive, c'est celle du Talmud. Mais c'est compliqué, quand même. C'est compliqué de rester dans le Talmud. Celle du Talmud, parce que t'as jamais de réponse.
Mais à défaut, il y a la littérature.
À défaut, il y a la littérature, exactement.
Merci Toby Nathan pour cette conversation absolument passionnante et importante. Je rappelle le titre de votre roman, L'assassin du genre humain, c'est chez Stock, un livre que j'ai particulièrement, vraiment beaucoup aimé lire. Merci encore Toby Nathan.
Merci Marc Alain-Weknin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Nicolas Leroulé, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.